acteurs dans les gars suffocants. On l'a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a des bastons dans la tour. J'ai fait les mecs, ça va signer. Allez avec moi. Y'a du basson dans la tour. Y'a du basson dans la tour. Y'a du basson dans la tour. J'ai fait les mecs, ça va signer.
Salut à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Et donc pour rappel, pour nous écrire c'est au 07 52 40 22 48 et pour nous écrire c'est au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris, L'Envolée-FPP. Et donc ce soir on n'est pas très nombreux, l'émission elle est enregistrée comme celle de la semaine dernière parce qu'on est, on a été un peu en galère là en début du mois de septembre, mais à partir de la semaine prochaine on reprend le direct et à la fin du mois ce sera à nouveau les copains et les copines du Sud qui feront l'émission. Et donc aujourd'hui déjà il y a Arthur qui est de retour.
Salut.
Voilà, après un long moment loin de Paris, ça fait plaisir. Y a Serge qui a la technique.
Salut à tous et à toutes.
Ouais, et moi, donc, y a Alex pour présenter l'émission. J'en profite pour dire que j'ai rien entendu quand t'as parlé. Et du coup, aujourd'hui, on va commencer, comme d'habitude, par vous lire une lettre. Une lettre qu'on a reçue il y a longtemps. Mais voilà, après, on sait les galères que peuvent mettre la paix. Et puis après, il y a eu le mois d'août aussi où on n'a pas récupéré le courrier. On va après vous diffuser un enregistrement qui avait été fait en mai de Najette, qui est la mère d'Idir, qui a été tuée par des matons au mitard de Corbas, donc qui est la maison d'arrêt de Lyon. Il y a à peu près un an, ça fera un an en tout cas le week-end prochain, et il y a une... Il y a une marche, il y a des choses qui sont organisées ce week-end là-bas et on appelle toutes les personnes qui sont dispo et qui sont dans le coin, qui sont dehors, à y aller évidemment. Pour finir, on va recevoir deux appels de centres de rétention. D'abord, du centre de rétention du Ménil-Amelot, dont on a pas mal parlé la semaine dernière aux évasions qui ont eu lieu pendant le mois d'août. Et aussi, du centre de rétention de Vincennes où, comme on vous l'avait dit, mais rapidement la semaine dernière, il y a pas mal de personnes qui sont malades, atteintes du Covid. Et du coup, la réponse de la préfecture, c'est toujours la même, c'est mettre les gens au mitard plutôt que de les libérer, plutôt que de fermer le centre de rétention. Et donc, on va commencer, désolé pour ce long fil, on va commencer l'émission par la lettre de Kémy du quartier d'isolement de Saint-Maur.
Ok, ouais, donc comme on disait, c'est une lettre que Kémy nous a écrit début juillet. Donc, on a reçu encore plus tard que ça et que là, on vous lit donc encore plus tard. Parce que l'émission était en rediff pendant ce temps-là. Kémy, ça fait depuis plus de 6 mois qu'on lit des lettres de lui ou qu'on publie des lettres de lui, donc vous pouvez en retrouver d'autres dans d'autres émissions, une notamment qui s'appelait Santa Muerte, où il racontait déjà en fait, les conditions au quartier d'isolement de Saint-Maur, où là ça va bientôt faire un an qu'il est enfermé, et où il est à chaque fois prolongé, et lui, il demande qu'une chose déjà, c'est pouvoir sortir. Donc, d'ailleurs, cette lettre s'appelle « Toujours au cuit ». Coucou les amis, me revoilà pour donner de mes nouvelles, même si ma situation n'a pas changé. Récemment, je suis passé en débat contradictoire pour ma prolongation de l'isolement. Ce n'est pas encore la réponse, mais comme d'habitude, ce sera prolongé. Ma situation est toujours la même. Ça fait 6 mois que je n'ai pas vu mon frère au parloir, car 900 km, ça coûte des sous, et mon frère n'a pas de boulot. Je ne comprends toujours pas l'acharnement de la directrice à me garder au QI, au quartier d'isolement, alors que je me tiens à carreau. J'ai une infirmière psy qui vient me voir une fois par semaine et un psychiatre une fois par mois. Je ne fais pas parler de moi et pourtant, l'administration pénitentiaire veut essayer de me briser. Mon moral a pris un coup, car je ne vois pas mon frère, mais je garde espoir. En vrai, j'ai toutes les raisons du monde pour péter un plomb. Mais je n'en fais rien, car j'ai promis à la famille. Que serais-je sans la famille? C'est simple. Une bête sauvage, entre guillemets, pour me faire entendre. Je ne parle avec plus personne, car même le fait de discuter par la fenêtre avec mes co-détenus, la direction me le reproche. Donc j'ai fait le choix de m'isoler dans l'isolement. Quelle ironie. Mes journées se ressemblent, toutes, à devenir dingues. Mais je fais tout mon possible pour ne pas basculer dans la folie, genre parler tout seul comme mon voisin de cellule. Heureusement que l'équipe de L'Envolée, que je remercie, m'a permis de me faire entendre et rencontrer des gens formidables. Tiens, j'en profite pour faire une annonce, je cherche à rencontrer des gens Donc si des gens veulent m'écrire, demandez à l'envolé qui vous transmettra mon numéro d'écrou et mes coordonnées. Bon, j'en reste là pour ce soir. Force à tous et toutes les détenues de France et à leurs familles. Pas d'arrangement. Kémy.
Ouais, bah déjà pour rebondir sur la fin de la lettre, le courrier c'est hyper important. C'est hyper important pas que pour le soutien moral, c'est aussi hyper important dans le rapport de force face à l'administration pénitentiaire. Et c'est aussi hyper important pour lutter contre ce que sont les mesures d'isolement, quoi. C'est-à-dire l'isolement, ça a pour but de séparer les gens de leur MIFA, du monde extérieur, et que du coup l'administration pénitentiaire puisse se venger sans le regard de personne, quoi. Et donc c'est important. S'il y a des personnes qui souhaitent lui écrire, faut pas hésiter à nous contacter. Et nous, on vous transmettra le numéro d'écrou, on filera votre adresse à Kémy avec plaisir, quoi.
Et peut-être juste pour rappeler, pour l'isolement, il y a eu un communiqué de l'OIP qui a été fait durant l'été, là, qui parlait d'un type qui est enfermé à Châteaudun et qui a entamé une grève de la faim le 13 août. On n'a pas de nouvelles depuis, mais en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'ils ont commencé à le mettre en isolement alors qu'il a un certificat médical qui dit que ses conditions de santé ne sont pas du tout réunies. Enfin voilà, ils ne peuvent pas le laisser à l'isolement. Mais sauf que la direction de l'établissement, en tout cas, était très très énervé du fait qu'il ait fait une pétition qui alertait sur la mauvaise qualité des repas. Donc voilà, donc c'est toujours le même truc, on utilise l'isolement pour casser des rébellions à l'intérieur et ou simplement de l'expression, quoi. Parce que là, une pétition, il y a rien de méchant. Donc ça fait partie de ces trucs et tout ça. Et juste pour rappeler sur l'isolement, en fait, au début c'est la directrice, après c'est la DI et après c'est même le ministre de la Justice lui-même qui continue à maintenir à l'isolement les gens, et ça peut durer toute la détention.
Ouais, bon après c'est le ministre, il signe des papiers comme il en signe tant, hein. Enfin il en a pas grand chose à foutre personnellement.
Ouais, mais en fait il fait ce que lui dit de faire l'administration.
Ouais, voilà, mais c'est Craris qui met les garanties, quoi. Et juste pour dire, pour qu'il obtienne un certificat médical pour dire qu'il est en mauvaise santé pour le QI, c'est qu'il doit être sacrément en mauvaise santé, le gars. Parce qu'en fait, les quartiers d'isolement, c'est fait pour la santé de son père, quoi. La tôle en général, mais particulièrement le QI. Et du coup, en fait, on a parlé souvent ici de l'état de Fabrice, qui est au QI depuis plus de 8 ou 9 ans, de qu'est-ce que ça peut faire. Et du coup, ça veut dire qu'il est vraiment en très mauvaise santé et que c'est vraiment hyper important de le faire sortir de là, quoi. Et ça permet aussi de rappeler qu'en 2021, les pétitions, elles continuent à être interdites en tôle. On voit très bien le rapport de force que ça permet d'avoir une pétition dehors. On voit très bien que ça sert, ça sert à ce que ça sert, quoi. Du coup, ça montre un peu le niveau de droit qui reste à l'intérieur, quoi. Et de la considération qu'a de la paix des prisonniers et de leur avis, quoi.
Mais donc écrivez-nous pour écrire à Kémy. C'est vraiment hyper important de pas les isoler, et aussi à tous les autres, hein, que ça soit Fabrice, l'infâme et tout, quoi.
Ouais, on en profite pour dire aussi que justement Fabrice en ce moment il prend cher a priori au QI de Condé-sur-Sarthe, quoi.
Ouais, et en plus c'est aussi là ce qu'il raconte, c'est comment c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais encore plus à l'isolement, en fait tout va être peut être utilisé à un moment par les matons ou par la direction pour se foutre la pression. Lui là il veut sortir l'isolement, là ça fait des mois, enfin ça fait un an du coup qu'il est arrivé quasiment là à Saint-Maur, et un an qu'il a l'isolement et qu'il n'en peut plus. Et du coup, là, apparemment, le nouveau coup de pression, c'est t'as plus le droit de discuter, de faire du bruit à la fenêtre, quoi.
Et ça, c'est dégueulasse, hein.
Ouais. Et c'est même, aussi sur qui il t'autorise ou non, avec qui de parler, parce que c'est aussi, alors je me souviens plus, c'était Kémy ou d'autres qui nous parlaient de ça, mais donc le fait que, donc dans les quartiers d'isolement, en fait, ils placent certaines catégories de prisonniers à qui ils ont foutu des étiquettes, parfois il y a les prisonniers ou prisonnières trans, parfois il y a les considérés comme étant radicalisés, et d'autres personnes qui sont considérées comme étant malveillant vis-à-vis de la détention. Et donc, si tu te retrouves à parler avec quelqu'un qui a eu l'étiquette radicalisée, en fait, toi-même, tu vas rentrer dans le processus de choper l'étiquette de radicalisé. Donc là, il ne développe pas particulièrement. Mais il y a plein de manières pour t'interdire d'avoir des rapports sociaux normaux avec des gens et juste un échange. Et donc les seules personnes que tu vois, c'est les matons encagoulés souvent, ou en tout cas très souvent habillés comme des Robocop. Et donc au bout d'un moment, comme il le raconte très bien dans sa lettre, quoi, tu te retrouves à parler tout seul. Et ils veulent couper du reste des gens.
Ouais, et Kémy, en fait, il fait partie de la troisième catégorie dont tu parlais, hein, c'est-à-dire les gens qui sont battus à l'intérieur l'intérieur et que l'administration pénitentiaire a décidé de ne pas, enfin en fait a décidé d'en faire un exemple et donc de se venger le plus longtemps possible quoi sur lui. Il a pris de la peine interne si je dis pas de conneries, donc pour
mais c'est
des
ça, à la base il est rentré pour 4 ans et là maintenant il en a enfin quasiment 20 à faire
Voilà, et tout ça, en fait, c'est l'administration pénitentiaire qui le pousse à faire ça, qui après va réussir à gratter des trucs au ministre en disant « Mais regardez, il y a des gens, y a des gens qui se révoltent à l'intérieur. » et après, qui va le punir pendant très longtemps pour bien envoyer un message à tous les autres prisonniers. Et ça, c'est hyper, aussi, enfin, c'est hyper important aussi à dire, quoi. C'est cette espèce de truc de vengeance d'État dans le temps long, quoi. C'est toujours ce qu'on mange et c'est toujours ce qui est un peu étonnant, mais c'est comme dehors, longtemps après certaines affaires, longtemps après les mouvements sociaux, bah, les keufs, ils sont toujours là à enquêter et ils sont toujours là à péter du monde, quoi. Et c'est pareil, en fait, à l'intérieur, la vengeance de l'administration pénitentiaire dedans. Et bah, si c'est pas immédiatement, on en parlait la semaine dernière avec Uzerche, hein. Il y a eu les transferts disciplinaires dans l'immédiat. Il y a les procès sur le long terme, mais il y a aussi très certainement genre l'accueil des matons un peu partout. Enfin, comment t'es considéré par l'administration pénitentiaire, tes RPS, enfin tout ça quoi, qui rentre en jeu. Enfin, donc il y a toujours une vengeance sur le temps long avec ces gens-là quoi, même si elle est pas judiciarisée quoi. Du coup là, on va essayer de vous passer un petit appel pour ce qui se passe ce week-end.
Bah pour rappeler, ça fait un an que Idir est mort dans les murs du quartier d'isolement. Du Mitard, excusez-moi. Il y a un co-détenu qui a entendu des matons le taper. Et depuis, l'enquête est en cours. Et surtout, sa mère, Najette, se bat de ouf. Elle avait déjà organisé le dernier week-end de mai une marche contre les morts suspectes pour l'abolition du Mitard et des quartiers d'isolement à l'époque. Et donc là, on repasse ce son. Mais en fait, qui continue à être d'actualité. Et donc, il y aura particulièrement un match de foot qui se tiendra ce week-end à Lyon. On vous donnera toutes les infos à la fin.
Bonjour, aujourd'hui, donc nous sommes début mai 2021. On est avec Najette, la maman de Idir. Il est mort au Mitard de la maison d'arrêt Lyon-Corba le 9 septembre 2020 et c'était une mort très suspecte. Officiellement, selon l'administration pénitentiaire, c'était un suicide, mais ses proches n'y ont jamais cru et ont tout de suite monté une association, Idir Espoir et Solidarité, et entamé un combat pour obtenir vérité et justice et plus largement dénoncer ce qui se passe en prison et dans les Mitards. Donc bonjour Najette.
Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier au nom du collectif Idir Espoir et Solidarité, qui inclut plusieurs familles victimes de l'injustice pénitentiaire, et de nous avoir invités.
Vous avez déjà organisé plusieurs mobilisations, démarches, et là, le 30 mai 2021, vous allez organiser un événement.
Effectivement, on a organisé un rassemblement qui sera une journée de lutte annuelle à chaque dernier dimanche du mois de mai à l'échelle nationale.
Ok, alors on va parler un peu plus tard, on reviendra en détail sur cet événement du 30 mai. Et pour commencer, je te propose de présenter un peu plus globalement votre combat et ce qui vous anime.
Nous menons ce combat contre toutes les violences infligées aux détenus et qui restent impunies, contre tout traitement inhumain que subissent les prisonniers et contre toute humiliation dans toutes les prisons de la France. Et aussi contre tous les éloignements et les transferts des prisonniers sans même aviser leurs proches et sans se préoccuper de la situation financière et la distance de leur famille. Et on lutte pour que ces monstres qui représentent l'État soient punis de leurs actes de barbarie. Eux qui se permettent de décider de la vie ou la mort d'un détenu. Et la plupart, c'est des Noirs et les Arabes. Et aussi lutter pour radier les couloirs de la mort, dit quartier disciplinaire ou Mitard. Ils doivent être fermés définitivement. parce que malheureusement, c'est là où il y a trop de morts et tortures, plus que suspectes et inexpliquées. Ces fonctionnaires de l'État profitent de leur plein pouvoir et se croient tout permis. Ils exercent leur stratégie de torture psychologique et physique jusqu'à entraîner la mort et par la suite la maquiller en suicide. Parce que ils savent très bien qu'ils sont couverts par leurs collègues et leur hiérarchie et par la justice bien sûr, en détruisant les familles entières. Et ça dure depuis plusieurs dizaines d'années. Et ça continue encore et encore. Et cette injustice qui ferme les yeux sans que ces monstres soient jugés et condamnés, ils continuent toujours à exercer ou pour certains sont mutés et montés en grade. Et pourtant, on est dans un pays de droits de l'homme, de liberté, de l'égalité et fraternité. Alors on se demande, ils sont où tous ces droits? Elle est où la vraie justice? Les détenus sont des êtres humains avant tout. Ils sont pas des animaux. Ils sont pas juste des simples numéros d'écrou. Ils ont des familles. La plupart, c'est des mères et des pères de famille. Ils sont des citoyens français. Pourquoi leurs droits sont bafoués? Qui les protège de ces monstres? Nous, les familles, on exige que la justice soit rendue et que la loi s'applique pour tous. Que ces monstres soient jugés et condamnés de leurs actes monstrueux. Que les vidéos de surveillance soient consultées et bien conservées après un drame et que les surveillants soient équipés d'appareils vidéo. Que la justice prend en considération la parole des détenus et pas juste les surveillants. Que les vraies réponses soient transmises aux familles. Pas des scénarios montés en toutes pièces pour nous faire croire leurs mensonges. Nous demandons que les médecins légistes soient honnêtes dans leurs rapports et qu'ils arrêtent de participer à des mascarades et arrêtent de nous faire croire que nos proches sont suicidaires. Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous connaissons très très bien nos proches. Ils ne sont rien d'un suicidaire. Ils ne seraient jamais, jamais passés à l'acte. Les prisonniers ont le droit de purger leur peine dans la dignité et le respect. On fait appel à toutes les familles des détenus pour se mobiliser le 30 mai parce que personne n'est à l'abri. Les détenus sont en danger. Il faut pas dire je suis pas concerné. Parce que nous aussi, on n'était pas concernés. Jusqu'à être touchés par ce drame terrible. Et je fais appel à tous les proches des détenus. Rassemblons-nous pour dire stop à l'impunité faite par les surveillants. Stop aux crimes crapuleux maquillés en suicide. Laissez-les sortir vivants. Et pas comme mon fils Idir, Zemani, Benoît, Bilal, Farid, Khalid, Eidi, Jimouni, Toufik, Jamel, Mehdi et plein d'autres. Paix à leur âme. Tous sortis les pieds devant. Et là, ça devient très, très grave. Et pour lutter contre la prescription de toutes les affaires similaires, quand les familles n'ont toujours pas obtenu de réponse. Et pour dire stop au massacre qui détruit des familles tout entières, qui vit dans leur douleur, leur souffrance, qui attend toujours la vraie justice et la vérité depuis des années, pour pouvoir enfin faire leur deuil et vivre en paix. Tant qu'il aura pas de justice, il aura pas de paix. Notre association s'appelle Idir Espoir et Solidarité. Et on a mis en place une pétition pour radier les mitards dit quartier disciplinaire, et pour nous c'est les couloirs de la mort. Et on vous invite à aller la signer, s'il vous plaît, pour pouvoir sauver des vies, parce qu'on ne sait pas qui sera le prochain. Notre association, elle est sur tous les réseaux sociaux. Il faut juste taper « Nous sommes IDIR Espoir et Solidarité ».
Ok, donc vous êtes à l'initiative d'un rassemblement qui aura lieu le 30 mai à Lyon. Ça se passe où ?
Ben, le rassemblement du 30 mai à Lyon aura lieu place Bellecour à 14h. Vous trouverez toutes les informations sur notre page Facebook. Et sans oublier, nous remercions aussi toutes les personnes qui ont répondu à notre appel et vont organiser un rassemblement dans leur ville le même jour. À Nantes, Bordeaux, Perpignan, Béziers et peut-être Paris et Saint-Étienne. Nous faisons partie du réseau d'entraide Vérité et Justice qui regroupe des familles de victimes, des mutilés, des collectifs anti-répression qui luttent contre les violences d'État, entre guillemets violences policières et violences pénitentiaires. Nous les remercions aussi pour leur soutien précieux. Et vous trouverez sur leur page les informations sur les rassemblements qui vont se passer ailleurs en France, en dehors de Lyon. Merci.
Ok, bah on se retrouve dans la rue, dans plusieurs endroits de France et à Lyon, le dimanche 30 mai, contre les morts suspectes en prison, contre les mitards et contre les violences pénitentiaires.
Oui, c'est ça. Et je fais un appel, s'il vous plaît. Venez nous soutenir. Il ne faut pas dire je ne suis pas concernée. Parce que nous aussi, notre famille, elle n'était pas concernée. On n'était pas dans ce milieu. Et là, malheureusement, on est touchés par ça. Venez nombreux. Et comme ça, on soutient les prisonniers. Parce que vraiment, vraiment, ils sont en danger. Les prisonniers, ils sont en danger, là. Et voilà, quoi. Soyez nombreux. Mais c'est fini, le
verre est blanc. Donc, on vient d'écouter Najette, qui parlait principalement des rassemblements qui ont eu lieu fin mai. Donc, ce qu'on vous disait bien, c'est que donc pour les un an de IDIR, il y a tout le week-end des choses qui sont organisées à Lyon. Donc, on va vous en faire un petit peu la liste. Donc, tout d'abord, vendredi, donc en ce moment, parce que l'émission est enregistrée, je vous le rappelle, à 18h30, à l'espace communal de la Guillotière, il y a la projection du documentaire En dehors de Grégory Lassalle. Et ça sera suivi d'une discussion avec le réalisateur. Le samedi 11, il y a un repas avec de la ZIC. Et donc, pour en savoir un peu plus, ça, il faut écrire au mail fraca@riseup.net. Et donc, dimanche, à partir de 14h, il y a un tournoi de foot et barbecue à Brignais. Donc, c'est 14 avenue du Stade à Brignais. Voilà, et donc, il y a un événement Facebook que vous pouvez retrouver pour avoir plus d'infos. Et juste pour info, pour aller à Brignais, c'est le bus 12 depuis la gare d'Oulin. Voilà, donc, et pareil, s'il y a des gens qui ont des voitures et qui veulent en faire profiter d'autres personnes, écrire à fraca, fracas, @riseup.net. On passe un petit coup de zic.
Tu verras souvent solo simplement parce que l'humain je peux plus le supporter. J'ai des problèmes mais je marche tranquille, j'ai de quoi dire bye bye. Tous les jours c'est la même merde ici à des kilomètres. Le respect le pécule, moi je respecte ceux qui parlent pas. Si on fait bande à part, c'est quatre pattes à la dée. Pourquoi faire la rue si ta rue ne paye pas? Et les types veulent plus rêver, mais ils veulent se mettre en indé. Il va aller chercher ça, c'est là aux Pays-Bas. On a que du temps à perdre, nous on a grandi dans les blêmes, bro. CJD, j'irai déjà tout au pénaf. Y'a peu de vrai, la rue a changé, maintenant c'est rempli de Wayne, bro. C'est rempli de Wayne, bro. J'suis toujours dans les comptes, et ouais mon con, qu'on est cool, gramme ou gros, c'est pas pour maintenant Alicante. Le thème des affaires, on les néco. Tant que t'es pas une donneuse, on est réglo. J'prépare
prépare les recherches pour demain de l'admi. Quel Marcelo t'élève veut mettre les menottes. Mais je viens de la rue donc t'aimer c'est ennemi. Une vie de couple pour nous c'est miné. Y'a le cœur et la raison. Mais mon cœur est pour le réseau. Elle sait pas dehors, je suis plein de mes chèques. Mon train de vie fait que nous disséminer. J'ai traîné dans les bars tabac minot, j'avais les crocs. Les coronets n'ont pas changé, j'suis toujours en vie de gros. J'suis dans les complots, en tête de compo. T'as rien compris, mon con, si tu nous compares à eux. J'ai arpenté les coins riches, bredou, j'revenais pas même à pied. De la pharmacie au tourné table, on a tapé, j'suis à l'étape hôtel. Début de semaine, j'évite les perquises. Parce que Porcinet veut me renvoyer quand il est. Tu connais, j't'édite la rue, mais j'suis qu'un homme. Le bon veut tout le six, puis j'l'ai retourné comme Alain. À peine libérable, ça reprend les commandes. Faut bien rentrer ces années de galère. Donc on s'arrête pas et pour le moment j'suis toujours dans les comptes. Et ouais mon con, qu'on est cool. Gramme ou gros, c'est pas pour maintenant Alicante. Le thème mène des affaires, on les négo. Tant que t'es pas une donneuse, on est réglo. J'prépare les recherches pour demain de l'admi. Quel Marcelo t'élève veut mettre les menottes. Mais j'viens de la rue donc t'aimer c'est ennemi. Une vie de couple pour nous c'est miné. Y'a le cœur et la raison. Mais mon cœur est pour le réseau. Elle sait pas dehors, j'suis plein de mes chèques. Mon train de vie fait que nous disséminer. Non, nous disséminer. Mon train de vie fait que nous disséminer. Non, nous disséminer.
Vous êtes bien de retour sur Fréquence Paris Pluriel, dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Désolé, on faisait la reprise de l'émission. Et du coup, toi, tu nous appelles, actuellement, tu es enfermé au centre de rétention du Ménil-Amelot.
Oui, c'est ça.
Et on voulait revenir un peu avec toi sur l'ambiance de ces derniers mois. Nous, à la dernière émission, on avait pas mal parlé du Ménil-Amelot, puisqu'il y a eu un gros mouvement collectif en juillet, là-bas. Et pas mal de répression aussi.
Ici ça se passe mal hein. Et comme je vous dis, moi ça fait 5 mois je suis là, ça fait 5 mois. Par rapport à j'ai fait quelques conneries, j'étais en prison. Quand je sortais en prison depuis avril, je suis là, je suis retourné ici. Et moi ça fait bientôt 10 ans je suis en France, j'ai toute ma famille ici, tout ça. Et en fait la vie ici c'est compliqué, tellement c'est compliqué, on mange pas bien, on dort pas bien. Et les gens, en fait, c'est facile de rentrer ici, mais c'est difficile de sortir.
Parce que, en gros, pour expliquer aux gens, là, normalement, en centre de rétention, on peut faire que 3 mois. Sauf que... Vas-y, toi, tu peux expliquer.
Oui, tu peux faire que 3 mois, mais maintenant, il y a une nouveau loi qui est sortie, parce que quand tu revis des tests PCR, tu peux y aller en garde à vue. C'est comme un délai, en fait. C'est comme un délit, tu peux y aller en garde à vue et tu peux revenir ici comme si tu peux y aller en prison.
Ouais, c'est ça. En fait, toi, ils t'ont mis une interdiction de territoire au bout de 3 mois, non?
Oui, c'est ça.
Ouais, et en fait, grâce à ça, ils servent de ça pour remettre les gens en centre de rétention. Ce qui veut dire qu'en fait, au lieu des 3 mois, déjà 3 mois, c'était pas normal, tu vois. Mais là, c'est-à-dire que toi, tu vas manger presque 6 mois, ça se trouve.
Oui, c'est ça. Demain, je vais passer devant le juge pour mes 2 mois. Et moi, en fait, ici, je suis là parce que j'ai toute ma famille ici. J'ai mon fils et j'ai toute ma famille ici. J'ai fait mes études, j'ai fait juste quelques conneries. Et aujourd'hui, j'ai compris, quoi. J'ai compris et je vous mens pas ici. Ça me déprime, en fait. Ça nous rend faible. On mange pas, on dort pas. Et on fait que penser. Et c'est compliqué, quoi.
Du coup, toi, t'étais là en juillet un peu et en août. Toi, ça veut dire que, je sais pas si je dis des conneries, hein, mais récemment, ils ont construit des murs plus grands, non, au Ménil-Amelot?
En fait, ça, je suis pas au courant, mais j'ai entendu ça, en fait.
Ok, c'est entre le CRA 3 et le bâtiment pour les prisonnières, non?
Oui, c'est ça.
Ok. C'est ça. Et du coup, ça se passe comment, en fait, à l'intérieur? Par exemple, là, avec la police, depuis les dernières évasions, ça se passe comment?
En fait, c'est un peu compliqué avec eux. Tu vois, ils nous parlent mal, ils nous traitent mal. Ils traitent mal et c'est compliqué, quoi.
Ils mettent plus la pression, là, depuis quelques jours?
Non, ça fait longtemps qu'ils ne mettent plus de pression, tout ça. Ils mettent plus. Mais l'autre fois, j'ai vu qu'ils ont mis en pression en retenue. Ils sont rentrés dans sa cellule, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a tabassé tout ça. Et ça fait il y a 4 jours en fait.
Ok, et lui ça va quand même?
Lui ça va, il est toujours là, il va bien. Il a juste quelques blessures, bah ça va.
Et quand il se passe ça, enfin, je sais que vous êtes grave désarmé par rapport à ce genre de truc, mais vous pouvez aller voir comment ça se passe par exemple avec les assos qui sont à l'intérieur normalement et qui doivent faire du soutien juridique par exemple.
Oui, c'est la CIMAT. La CIMAT, ouais, des fois on part, ça se passe bien avec eux, tout ça, mais des fois ça se passe mal. On dirait même qu'ils travaillent ensemble en fait. On dirait qu'ils travaillent ensemble et ils sont là pour nous aider, mais. Pas vraiment quoi. Pas vraiment. Des fois, s'il se passe des trucs comme ça, on peut y aller les voir. Pour, il fait article 24. Article 24, ça veut dire qu'on peut porter plainte contre eux, tout ça. Par rapport à la nourriture, par rapport à plein de choses quoi.
Et ça arrive souvent qu'ils prennent des plaintes comme ça?
Oui, ça arrive souvent. Oui.
Et il se passe des choses après, genre vous avez déjà eu des.
Oui. Et comme si. L'autre fois, il y a un mec, il devait y aller manger, il n'a pas sa carte. Il n'a pas sa carte, ils ont dit qu'il ne mange pas, parce qu'il n'a pas sa carte. Après, c'est parti en couille, ils ont commencé à lui parler mal, lui aussi, il a commencé à parler mal, tout ça. Ils l'ont traité de chien, sans papier, ils me traitent tout et n'importe quoi, tu vois. Après, c'est parti en couille, quoi.
Ouais, les flics cherchent la merde de ouf, quoi, parce que oui. Tu peux pas manger parce que t'as pas ta carte, en fait. Enfin,
oui,
t'es enfermé, quoi.
Si t'as pas ta carte, et tu peux pas manger.
Ouais, peut-être pour rappel, pour expliquer aux gens, en fait, les cartes, là, c'est ce qui permet de se déplacer dans le centre de rétention, quoi.
Oui,
on vous refuse des cartes d'identité dehors, mais dedans, on vous impose d'avoir une carte.
Oui, c'est ça.
Et du coup, moi, je me demandais, donc toi, t'es au CRA 2, si j'ai pas de conneries. Et l'ambiance, c'est comment ces derniers temps, un peu?
Bah, l'ambiance, c'est calme, hein. Je vous mens pas, c'est calme. Parce qu'au CRA 2, ici, les gens, ils sont pas trop comment dire, solidaires. En fait, ici, c'est vraiment calme. Mais au CRA 3, c'est vraiment... Là-bas, ça bouge, quoi.
Ouais, bah d'ailleurs, c'est de là dont sont partis les mouvements de révolte dont on parlait la semaine dernière, quoi.
Oui, c'est ça.
Et je me demandais... Ouais, vas-y, dis.
Mais franchement, au Corrado, c'est calme, vraiment, c'est calme. Parce qu'avec les policiers, tout ça, c'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué. Si on fait un truc qui vient pour nous dire, ouais, faut pas faire ça. Si tu fais ça, tu vas porter au isolement, tout ça. Même il y a... Je me rappelle, Il y a quatre jours, il y a une femme, ils l'ont mis au isolement. Parce qu'il a fait un test corona, parce qu'il avait des symptômes, tout ça, il a fait un test corona. Maintenant, ils l'ont mis au isolement. Et isolement là-bas, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Pour une femme, c'est compliqué.
Ouais, pour tout le monde, en fait, c'est une punition, en fait, normalement, le mitard, tu vois.
C'est une punition, en fait. Une punition. C'est comme au mitard, en fait. C'est comme c'est un isolement, mais c'est pas pour une femme. En fait, une femme, elle doit pas être là-bas.
Ouais, bah.
Elle doit pas être là-bas, c'est...
Et donc, en fait, ils mettent à l'isolement, donc au mitard, les personnes qui sont testées positives au Covid?
Oui, c'est ça. En fait, elle n'était pas testée positive, juste elle attendait son résultat.
Et ça fait un an et demi que ça dure. C'est depuis le début de la pandémie qu'ils se servent. Mais partout, en tôt, le début aussi, ils l'ont fait, de servir de cellule d'isolement. Genre, juste... C'est une double punition, quoi. C'est-à-dire, à la fois, t'es malade, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de soins parce que t'es en centre de rétention, donc s'y mère les soins, et en plus de ça, on te fout au mitard, quoi, donc qui est en fait une mesure disciplinaire. De la même manière que quand on nous met le plexi, c'est à tout le monde, c'est une mesure disciplinaire, quoi.
Mais c'est ça, en fait.
Et moi, je me demandais, du coup, toi, tu disais que tu sortais de tôle, et est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé, comment t'as appris qu'il y avait la police aux frontières qui allait te ramener au centre de rétention?
En fait, moi quand j'étais en prison, moi en fait, je savais pas du tout, je savais pas que je vais venir au centre de rétention. En fait, mes papiers, ils étaient périmés, je devais faire mes démarches là-bas. Et là-bas, j'avais pas le temps. Et j'avais pas le temps. Ça veut dire, j'ai fait les démarches vers la fin avec la patte pour avancer au droit. Bah, du coup, quand j'ai fini ma peine, tout ça, et moi je pensais que je vais sortir dehors, tout ça. Et quand je suis arrivé devant la porte, il y avait trois gendarmes qui m'attendaient.
Ouais, donc tu le savais même pas, c'est en sortant que t'as vu ça, quoi. Le SPIP, y a personne qui t'a rien dit, quoi.
Non, y a personne qui m'a rien dit.
Moi, ça me rappelle la lettre qu'on a lue la semaine dernière ici à l'émission d'un gars là qui en ce moment est enfermé à la maison d'arrêt de Nîmes. Et lui, il racontait la même chose, quoi. C'est-à-dire que quand il sortait de la première fois qu'il est sorti de tôle avant de faire des allers-retours Kratol, en fait, on lui avait dit t'inquiète, t'es libérable. Et on était venu le chercher, quoi. Et c'est vraiment dégueulasse parce qu'en fait, à l'administration pénitentiaire, ils sont au courant. C'est eux qui ont contacté la préfecture.
La préfecture, oui.
Tu vois, ils ont pas pu avoir l'info comme ça par hasard. Enfin, tu vois, ça existe pas, ça. La PAF, ils guettent pas tous les jours à 10h30 devant la tôle, tu vois. Enfin.
Bien sûr. En ce moment, c'est vraiment compliqué. Depuis que je suis là, c'est compliqué. Hein. Tu vois pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent, en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent. Il y a des gens qui travaillent et tout ça. Et ils sont une vie d'or, travail, maison, le femme, la famille. Tu vois, juste, ils ont des problèmes de documents, tout ça. Et ils l'amènent ici. Et les gens qui sont arrivés en France depuis que l'âge de 2 ans, c'est compliqué.
Bah ouais.
Moi, je vous m'en parle, ça fait bientôt 6 mois, mais j'ai plus ma tête, en fait. Ma tête est vide. Je sais pas quoi faire et c'est compliqué.
Bah, c'est normal parce que je sais pas, t'as mangé combien juste avant, mais en vrai, t'as fait presque 6 mois en cram, mais t'as aussi fait de la tôle avant. Et du coup.
En tout, ça fait bientôt 3 ans que je suis enfermé.
Bah ouais, tu vois, n'importe qui. Enfin, je sais pas, tu vois. Enfin, 3 ans, c'est long, quoi, dans la vie.
Bah ouais. Mais pour l'instant, ici, c'est calme. Au CRA 2, c'est calme. Au CRA 3, c'est calme. Ça se passe entour nous, ça se passe, on se donne la force, on se soutient et on n'a pas le choix, quoi.
Ouais, ça c'est le plus important.
C'est le plus important, ouais.
Et je me demandais, tu sais, s'il y a beaucoup de gens qui sortent de prison là en ce moment, qui sont envoyés au Ménil?
Oui, il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup qui sont arrivés.
Ok, et d'un peu toutes les tôles? Ou de certaines tôles?
Il y a Mont, Nanterre, il y a Fleury et. Ouais.
Ouais, parce qu'on sait qu'en fait, je sais pas si c'est des partenariats, quoi, mais les gens de la santé, par exemple, ils vont beaucoup à Vincennes.
Oui.
Et que, tu vois, bah, normal, Ménil, c'est le plus gros centre de rétention, donc c'est la plus grosse prison pour sans-papiers.
Oui.
Et voilà, quoi.
Il y a beaucoup de gens à Fleury qui viennent ici, et les gens de Nanterre, et les gens de Mont.
Et. Du coup, toi, ça fait 3 ans que t'es enfermé. Après, tu peux ne pas répondre. Mais je me demandais, ça veut dire que toi, t'as vécu le premier confinement, t'étais...
Ouais, j'étais en prison.
T'étais en prison et ça s'est passé comment?
En fait, ça s'est bien passé tout parce que ils m'ont donné des grâces. Ils m'ont donné deux mois corona. Ils m'ont donné 2 mois corona et... Ça s'est bien passé, quoi. Après, il y avait des gens.
En vrai, on est content de trouver la personne à qui ça a bénéficié ces 2 mois de grâce. Mais voilà. Mais n'empêche qu'ils t'ont filé ces 2 mois et ils t'ont attendu juste derrière, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ouais, non, mais
ouais, parce qu'après, t'as mangé 6 mois, quoi.
Oui, j'ai mangé 6 mois.
Ok.
Après, il y avait des gens qui sortaient. Il y avait des gens qui sortaient pendant le corona et.
Mais ça, c'était déjà à la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Et tu vois, il y a eu tout un moment où il y a presque, je crois, un tiers ou un quart des tôles en France où il y a eu des mouvements de blocage, un peu de, tu vois, de tentatives de mouvements collectifs, quoi. Et je me demandais si toi, t'avais vu un peu des trucs s'organiser ou s'il y avait des gens qui avaient essayé de bouger pour le retour des parloirs ou ce genre de trucs, quoi.
Oui, il y avait des gens qui sont bougés là-bas parce que les parloirs, ils étaient bloqués aussi pendant l'épidémie. Les parloirs sont bloqués, ça veut dire les gens, ils sont, tu vois, ils voulaient pas monter sans promenade, on voulait pas monter parce qu'on n'avait pas de parloir, les habits sont sales, tout ça, et il y avait des gens qui sont bousés.
Et ça s'est passé comment? Il y a eu beaucoup de répression?
Ouais, il y avait beaucoup, ouais. Après, ils sont appelés les élèves, ils sont venus pour nous faire monter, forcer, tout ça, et c'était compliqué.
C'était pas trop violent?
Comment?
Ils sont pas été trop vénères?
Un petit peu. Un petit peu. Et après, c'est la prison.
Non, mais ils ont été... Enfin, partout, ils ont été très, très violents, quoi. Mais Donc voilà, mais ouais, non, c'est vraiment un truc de ouf la manière dont ça se passe là en ce moment, quoi. Donc
ils sont vraiment méchants avec tout le monde, hein. Mmh. Avec tous les étrangers, tout. Mmh. Même si t'as pas de en règle, t'es fini, quoi. T'es mort, quoi.
Mmh. Ok.
Et tu vois pas ici, les gens ils sont pas bien, ils dorment pas. Et ils mangent pas et c'est compliqué pour eux, quoi.
Mmh. Ouais, parce que pour rappel, peut-être, en fait, dans les centres de rétention, tu peux pas, ce qu'on appelle dans les prisons, cantiner. Donc,
ouais, non, tu peux pas cantiner et tu peux manger quand en visite. Mmh. Et s'il y a pas beaucoup de gens qui sont de visite, c'est compliqué.
Ouais, sinon, c'est la gamelle, quoi. Et de ce qu'on nous dit, nous, à la radio, là, depuis des années, la gamelle en centre de rétention, ouais, ça... C'est chaud,
quoi. Vous connaissez, hein, la gamelle ici, comment ça se passe, c'est pas moi, en fait, tu manges même pas une heure, ta France, et c'est n'importe quoi, en fait. N'importe quoi, et c'est pas des bonnes bouffes, quoi, mais on mange quand même, mais c'est pas des bonnes bouffes.
Bah ouais, c'est chaud.
Et puis tu peux pas te faire à cuisiner, tu peux rien faire, enfin, voilà, ouais, quoi.
Tu peux rien faire.
Alors que, en vrai, 6 mois, et même 3 mois, c'est des vraies peines de taux, non?
Ah bah c'est sûr.
Tu vois, toi t'as mangé un peu plus, mais il y a plein de gens, ils mangent des 3 mois et des 6 mois en taux, non? Et c'est le minimum de pouvoir cantiner quand on t'enferme pendant 3 mois et qu'on sert ce genre de gamelle, tu vois. Enfin...
Bien sûr. Je vous mens pas, quand je suis arrivé, j'étais en forme, tout, mais là, j'ai plus de motivation, En fait, ils m'ont cassé le moral, quoi. Mmh. Et puis, tu vois, j'ai plus le moral, je sais pas quoi faire et... J'ai un pied au Sénégal, j'ai un pied ici. Je sais pas, je suis parti 3 fois au tribunal administratif, ils m'ont pas laissé. Et j'ai tous les documents qu'il faut, que j'ai toute ma famille ici. J'ai un hébergement, j'ai tout. Et en fait, c'est mon passé qui m'attrape. Et eux, ils savent pas que nous, on a grandi aujourd'hui, on a compris. On est devenu un père de famille et on a toute notre vie ici. Et moi, en tout cas, moi je parle de moi, en tout cas, la France, j'aime bien la France, moi. Et la France m'a tout donné, ça veut dire. Et aujourd'hui, je veux que juste ils me laissent une chance pour pouvoir les montrer que j'ai changé. Et
bah, le truc, c'est que ça joue pas là, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que là, en ce moment, plutôt, ils ont décidé de systématiser le truc contre les sortants de prison, tu vois. Et de toute façon, pour eux, la tôle, c'est pas une question de que tu te repentisses ou qu'à la fin, tu sois quelqu'un de bien. C'est une manière de punir et de faire peur, tu vois. Ils en ont un peu rien à foutre du résultat, quoi.
Bien sûr.
Du coup, le truc, c'est que tant qu'il y aura ces politiques racistes, tu vois, enfin... Après, tu vois, c'est différent, moi, je capte ce que tu veux dire. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui sont cool dans Paname, en Ile-de-France, enfin, normal, tu vois, mais ceux qui nous gouvernent, c'est pas la même, quoi.
Non, c'est pas la même.
Et ben...
En ce moment aussi, ils peuvent amener les gens sans test.
Ouais, c'est arrivé vers le Mali, non, au moins.
Ouais, Mali, il y a le Guinée, et ouais.
Ça, c'est chaud, hein.
Ah, c'est chaud, ouais. Parce qu'il y avait mon pote, il était là aussi, il a fait 6 mois. Après, quand il a fini ses 6 mois, il est parti en prison. Il a fait 2 mois. Quand il est sorti, ils l'ont ramené ici. Il a même pas fait 1 mois et ils l'ont amené sans test, en fait.
Mmh. Franchement, c'est des chiens, quoi. T'imagines, ils ont fait galérer le gars pendant 9 mois, en fait. Pendant 9 mois, tu l'enfermes, tu le fais galérer à faire croire qu'il peut être expulsé à tout moment, ou peut-être pas, ou aller en tôle. Et à la fin, ouais. Tu l'expulses comme ça, sans test. Et dans le même temps, c'est les mêmes gens, tu vois, qui sont en train de réclamer une 3e dose en France, de garder quasiment tous les vaccins pour les pays occidentaux, et de pas se laisser, de pas laisser les, tu vois, enfin, essayer de régler la pandémie ailleurs. En fait, c'est vraiment chaud, quoi. Tu sais, ils envoient des gens sans test, c'est le minimum. Enfin, tu sais, c'est vraiment le minimum, quoi. Genre juste, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Bref. En tout cas, merci beaucoup pour ton appel. Je sais pas si t'as quelque chose que tu veux rajouter.
Bah, je voulais juste merci votre soutien et ça me donne gravement la force et merci pour tout, quoi.
Bah force à vous.
Merci.
Et faut pas hésiter à rappeler dans les prochaines semaines, donner des nouvelles. D'accord. Si vous avez envie.
D'accord.
Et bah, voilà.
Je vous tiens au courant s'il y a des nouvelles, s'il y a des nouveaux, tout ça, et je vous tiens au jus.
Vas-y, plein de force à toi.
Merci à vous. Au revoir.
On va passer un petit coup de musique. Donc c'est Jay Polly, un rappeur rwandais qui a été retrouvé mort dans sa cellule en détention. Il a été enfermé parce qu'il faisait la teuf pendant le Covid et que c'est interdit dans son pays.
Bobo prend des beats.
I'm coming home.
Humu kambwe ba drama. The main barabizi. The main on
the top. I'm coming home.
Bigoye cyane. Marina urabizi. Mana ushime ku kwicapta.
I'm coming home.
Amahoro kubanje shalom shalom. Abadapfuye barabona na amina amin. Nkuko bidahira bose ukiriho shimira Imana ikuraho umubyeyi wabyaye atandukanywa n'umwana. Bijya gutangira ku itariki enye mu rukerera umwanzi Yesu yatatumiwe yazana umunabi mu nzu iwanjye nta rwango. Intonganya zivuga ntazwo zije. Jay Polly w'umusani yahinduka umunyabyaha atyo. Itariki ntimva ku mutima iyo minsi yaranzwe n'amarira. Abakunzi batakamba cyane abanzi bari ku icupa. Amaso abona rubi mu makubu habonera inshuti. Ko bambwiye bati yagiye kera ku busa. Bati niba ari kaba. Kanasimbuke panda gari. Bati niba ari umutari na tripingu twemere. Amagambo si ukuyavuga bacika ururondogoro. Inkuru yari je kumvuga TV na radios. Abamvuga batanzi bati navumwe n'umugome. Abanzi neza bati n'impanuka si uko ari. Mubageze aho nari abo twabanye n'imbarwa. Kirwana n'umusaraba wawe nta muvandimwe mu murwa.
Ego kuri kwanjye kujabona. Ikisi yose menye iby'amaranga mutima ya. Jy'urukundo ari rwo rubona.
Kanzu batikabaka kukurekura ntibishoboka. Abametre n'ibitabo ubwo barahaguruka ingingo ku ngingo izimfata zimirizinyi. Zavuze ko nta kiremera nk'amabuye. Nabwiwe ijambo zanuri kurota nkanuye. Ndi umugabo ndashona ntakunanizanya. Sindi nyirabayazana suko ndi suko nkora. Nzi neza kuteza imidugararo mu rugo rwe. Ni koko umurage we nta kindi ni imiyaga. Nabaye umupfapfa urakaribuse vuba. Sinabaye umunyamakenga ngo nirengagize ibitutsi. Nabambye sindakurura itegeko ntiryampereza. Ndwana no kutagenda ngo nci wamperezayo. Uwababeshya ko ari kubwe yababeshya. Nihashimwe Imana ipangira umuntu ibikwiye. Top top hirya n'ijwi rya Nyundo. Uburoko nk'umusaraba mpetse ni yale yale. Bigusaba kwiyakira niba atari ibyo kuzabukora zagara.
Ikisi yose menye iby'amaranga mutima ya. Jy'urukundo ari rwo rubona gura amakosa. I'm coming home. I'm coming home.
Vous êtes bien toujours à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Je crois que tout à l'heure, on n'avait pas dit redit le numéro de téléphone pour nous joindre tout le reste de la semaine. C'est le 07 52 40 22 48. Et pour nous écrire, c'est toujours au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, L'Envolée-FPP. Et du coup, là, normalement, on va recevoir un appel d'un prisonnier au centre de rétention de Vincennes. En attendant, juste pour expliquer un peu, on vient d'avoir un appel un peu long avec un prisonnier qui était en centre de rétention au Ménil-Amelot. Et en fait, quand il parlait, par exemple, de pas de parloir ou très peu de parloir qui se passe là-bas, le Ménil-Amelot, c'est vraiment une de ces tôles, mais comme ils font plein de nouvelles tôles comme ça, hein, mais qui est loin de tout, dans l'espèce de petite ville carcérale ou qui vide ça, quoi. Et donc, il y a à la fois ce gros centre de rétention, il y a une nouvelle annexe qui est en cours de construction et qui devrait être prête d'ici 4-5 ans. C'est le plus gros centre de rétention de France. C'est le seul où on peut enfermer des femmes et des enfants en France, en Île-de-France. Et sinon, il y a une grosse caserne de CRS et une annexe spéciale du tribunal de grande instance pour juger, en juge liberté et détention pour le centre de rétention du Ménil, quoi. Et du coup, c'est vraiment une espèce de petite ville carcérale, quoi, qui est à 10 km de l'aéroport. Et du coup, c'est blindé de keufs. Déjà qu'en centre de rétention, les matons, c'est des keufs. Et où tu vois passer des avions toute la journée, quoi. Donc en fait, c'est vraiment... Tu sais, on dit à chaque fois, le centre de rétention, c'est le croisement entre prison et frontière, quoi. C'est-à-dire, à la fois, t'es enfermé, en même temps, on peut essayer d'expulser, tout ça. Et en plus, là, tu vis les deux, quoi. C'est-à-dire, tu vois les avions et t'es enfermé. C'est vraiment de la... Je sais pas, une espèce de torture blanche qui est un peu dégueulasse, quoi, de la part de la préfecture, quoi. Et donc, ça explique aussi un peu le ton fatigué de la personne qui a appelé, quoi. Enfin, c'est-à-dire, passer 5 mois au Ménil-Amelot. Déjà que quand ils construisent des tôles, ils les pensent jamais gentiment, mais en fait, ils ont construit ces endroits-là. Je pense que ça devait être 32 jours, hein, la durée légale. Donc en fait, ils ont imaginé ces baraques et les conditions de vie des gars, comme si les gens allaient rester, et des meufs là-bas, comme si les gens, ils allaient rester 32 jours. Et maintenant, ils restent jusqu'à 6 mois. Et en fait, c'est pas du tout le... enfin c'est, tu vois, c'est pas pour dire quoi, mais c'est genre à la base ils ont plutôt pensé une grande garde à vue quoi, et là en fait c'est en train de se transformer en tôle et c'est pas du tout pensé pour quoi, même si quand c'est pensé pour c'est dégueulasse quoi.
Ouais, ça, et pour ça qu'il disait ça, il y a plein de gens qui en fait perdent vachement de poids, enfin dans l'état de santé en fait se dégrade vraiment assez vite en, dans les CRA, dans les centres de rétention, parce que ouais, à partir du moment où t'as pas moyen de cantiner, que souvent vu qu'il y a comme en fait très peu de centres de rétention, t'es souvent isolé, donc t'as pas de parloir pour t'apporter à bouffer. En fait, les gens, ouais, ils bouffent rien. Enfin, parce qu'à chaque fois ils le disent, de toute façon la bouffe, c'est même pas, même elle est dégueulasse, mais tu la bouffes quand même. Et de toute façon, elle te nourrit pas tellement c'est de la merde ce qu'on leur file, quoi. Enfin, ça fait partie de ces trucs-là, comme tu dis, ça a été vraiment pensé comme une garde à vue. Et du coup, en fait, il y a pas du tout les, enfin, le minimum pour survivre, on va dire.
Allô.
Allô, oui, bonsoir.
Salut, ça va ?
Salut, oui, ça va, et vous, ça va ?
Ouais, merci. Si tu pouvais nous expliquer un peu comment ça se passe en ce moment à Vincennes ?
Ouais, franchement, c'est dégoûtant. Franchement, il y a des gens qui ont le Covid, ils étaient isolés, et après, ils nous ont amenés avec nous, ils sont guéris, et tout, ils nous ont mélangés avec. Et tous les toxicomanes de Stalingrad, et tout, qui sont malades, et tout, avec leur pic. Ils se piquent ici, ils se droguent ici. Franchement, c'est.
Ouais, ce que tu essayes de dire, c'est qu'en fait, il y a des gens qui devraient être soignés, quoi, enfin, qui ont des problèmes de santé et qui n'ont rien à faire en centre de rétention, quoi. Quelle que soit la cause du problème de santé, quoi.
C'est ça, c'est ça. Ils ont des gros problèmes de toxicomanie. Tous les gens de Stalingrad, ils les ont amenés ici.
Ouais, ce qui veut dire, donc, qu'il y a eu des grosses rafles à Stalingrad, en fait, ces dernières semaines. Au nom de leur lutte contre le crack ou je sais pas quoi, en fait c'est ça que ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont raflés quand ils font plein de contrôles d'identité dans le quartier.
C'est ça, ils les ont amenés ici, ils les ont enfermés sans leur faire soigner correctement, mais...
Ouais, c'est dégueulasse quoi.
Ouais, mais franchement il y a des gens qui souffrent ici.
Bah ouais, parce qu'on rappelle qu'en fait c'est hyper dangereux, ça dépend quel produit tu consommes et tout, moi je suis pas trop spécialiste dans le délire, hein. Mais d'enfermer quelqu'un sans réfléchir le truc, en substitution, je sais pas quoi là,
ouais.
Des fois ça peut être hyper dangereux en fait, c'est mettre en danger des gens, hein, tu sais, de...
Eh oui, il y en a des gens qui ont des hépatites, il y en a beaucoup là, il y en a des gens qui, avec leur sang qui marche, qui ont des pieds gonflés et tout, enfin, franchement c'est... tu peux pas vivre dans cet état là, franchement c'est dégoûtant.
Bah il faut libérer les gens quoi, enfin c'est vraiment scandaleux en fait.
Ouais, ils sont mélangés avec nous, ouais, même les gens du Covid, ils les ont amenés, ils sont avec nous, ils sont mélangés avec nous. Mais
est-ce que, du coup tu crois que tu peux expliquer?
Ouais, je peux expliquer, parce qu'il y avait des gens, ils avaient le Covid ici. Et, ouais. Et à un certain moment, ils les ont amenés dans un autre centre de rétention à Massy-Palaiseau. Ils les ont amenés là-bas et ils les ont enfermés là-bas pendant 15 jours. Et là, ils ont dit, ouais, ils sont guéris et tout. Ils les ont amenés avec nous, ils les ont mélangés avec nous. Sans vaccin, sans rien du tout, des trucs sanitaires, franchement c'est ça flippe ici, il y a tout le monde qui a la peur, mais on sait pas quoi faire, il y a ni association ni hygiène ni rien du tout, tout le monde souffre, les toxicomanes souffrent, qu'ils ont le Covid, qui souffrent, il y a des gens qui ont leurs enfants ici en France, ils sont enfermés, il y en a des gens qui ont franchement c'est ils sont en train de mettre des gens et les enfermer comme ça et... Comme des chiens, franchement. Désolé pour le mot, mais...
Non, mais c'est ça. Mais je pense que c'est important aussi que, tu vois, tu dises, bah, les types, ils souffrent, et aussi, c'est sur vous que reposent, en fait, les états de manque que va y avoir des toxicos à ce moment-là. Et c'est aussi un jeu que joue l'État, en fait, à faire reposer sur ce que devrait être normalement un système de santé. Et en les enfermant, en fait, on sait très bien que c'est pas les keufs qui vont s'occuper. Voilà,
non,
et donc...
Non, ils vont pas s'en occuper. Il y a des gens qui n'ont même pas leurs médicaments. Ils partent à l'infirmerie, ils leur disent, ouais, votre médicament, on va le commander. Il y a des gens, ils souffrent avec le matin, ils ont pas leur dose, l'après-midi, le soir. Mais franchement, ils sont dans un état, mais non, ils sont franchement inhumains,
Et on rappelle que c'est de la responsabilité de l'État. Hein. Enfin, en fait, c'est ça, l'État c'est qui enferme des gens. Nous, on est contre.
On parle de Stalingrad, d'enfermer Stalingrad, mais il faut soigner les gens. C'est pas les enfermer.
Et Moi, il y a un autre truc que je me demandais, bref, ça n'a rien à voir du tout. Hein. C'est, on en parlait avec la personne qui était enfermée au Ménilamlo, là. Et ouais. Il disait qu'il y avait, tu vois, lui, c'était un sortant de prison. Il disait qu'il y avait beaucoup de sortants de prison, de plein de tôles, en fait. Ouais. Et nous, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la santé.
Moi, je viens de la santé. Moi, je suis un sortant de la santé.
Ok.
Moi, je suis un sortant de la santé. Ça fait 15 jours que je suis sorti de la santé et il m'a ramené ici.
Comment ça s'est passé? Ils t'ont prévenu à l'intérieur
Même pas, ils m'ont rien prévenu. Le dernier jour, ils m'ont scotché et ils m'ont ramené directement ici. J'ai rien compris.
Ils t'ont scotché?
Ouais, ils m'ont scotché directement les élacs là-bas en prison et ils m'ont amené directement ici avec mon scotch. Franchement, on dirait ils amènent des gens avec des casques enfermés pour les faire monter au navire, à l'avion, scotché tous les jours, on voit ça.
Et là, juste par rapport à tous les autres témoignages qu'on a eu d'habitude, où c'était la police aux frontières qui attendait à la sortie et qui était remis par l'administration pénitentiaire, voilà. Là, c'est les ELAC qui t'ont amené au CRA.
Non, c'est pas les ELAC qui m'ont amené au CRA, c'est les ELAC qui t'amènent au greffe et au greffe qui a la police de frontières qui nous attend là-bas.
Eh mais les ELAC, t'avais scotché tout ça avant quoi?
Ouais, les ELAC, franchement, il n'y a pas que moi, il y a tout le monde qui parle des ELAC. Franchement, ils nous ont mal traités, franchement.
Peut-être pour un petit rappel sur les ELAC, c'est des nouvelles unités qu'ils ont créées dans quasiment tous les établissements de France. Et qui sont là en fait en appui, comme ils disent. Voilà, donc en fait c'est un peu des gens qui ont rien à faire de manière générale dans la détention et qui dès qu'il y a un petit truc ou qu'il y a des fouilles de cellules à faire ou quoi, en fait c'est eux qu'on envoie tout le temps. Et donc voilà, on avait un coup de téléphone juste avant qui nous racontait que c'est eux qui sont envoyés pour un refus de remontée de promenade. Voilà. Et donc c'est vraiment, en fait, c'est les mini Iris du que, mais il y en a dans tous les établissements.
C'est ceux qui veulent. Vas-y.
Bon, il y en a tous dans tous les établissements, mais ils traitent mal les gens. Mais franchement, c'est des...
Ah, mais carrément.
J'ai été à la santé, et il y en a des gens, il y en a plusieurs gens qui sont victimes. Ils disent, ouais, comme quoi il faut dénoncer les gens qui sont victimes. Mais rien à voir. Il y en a des gens qui sont là-bas, il y en a beaucoup de gens des victimes. Mais franchement, dans les pénitentiaires et dans les centres de rétention, franchement, il n'y a aucune... gérance, franchement, comme des animaux enfermés, vas-y, voulez-vous se manger entre vous, ils savent que scotcher les gens et les rapatrier, c'est tout. Même il y en a des gens, il y en a beaucoup de gens qui ont des pistes de procédure dans leur dossier et ils ne sont pas sortis.
Moi, je voulais dire deux trucs. Déjà, les ELAC, c'est vraiment les unités des petits cobayes, hein, Antoine. Hein. C'est, je sais pas si c'est sur base de volontariat, mais il doit avoir une prime en plus, une connerie comme ça. Et du coup, c'est vraiment les matons qui ont envie d'aller à la confrontation, tu vois, qui étaient pas assez contents d'être au mitard ou je sais pas quoi, et qui y vont, quoi. Tu vois, du coup, déjà, ça montre un peu la mentalité des gars, et généralement, c'est vraiment des unités hyper violentes. Enfin, on en a entendu parler plein de fois, quoi. Et l'autre truc.
J'ai pas entendu.
Non, je disais, c'est des unités qui sont connues pour être violentes, partout, quoi.
C'est ça, ils sont connus pour être violents, c'est ça, ils sont faits pour ça.
Et les keufs, voilà, pas besoin d'en parler, hein, tout le monde le sait. Et le truc, c'est que juste, ce que je voulais revenir sur un truc que tu venais de dire, c'est que tu vois, en fait, là, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'il y a régulièrement des appels de prisonniers en centre de rétention à l'antenne. Ouais. Et là, depuis un an et demi, avec le Covid, il y a eu beaucoup de frontières fermées. En fait, il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés et on a beaucoup moins parlé des vols, en fait, depuis un an à cette antenne. Ouais. Et je voulais juste que si on pouvait reprendre le temps un peu d'expliquer là ce que tu viens de dire, parce que c'est quand même un délire, en fait, que les keufs, ils viennent scotcher des gens et leur mettre des casques pour essayer de les expulser, quoi.
C'est ça. Il y en a des gens qui sont en train de les scotcher. Il y en a des sans faire le test PCR. En train de les faire remonter dans l'avion sans test PCR, sans rien du tout.
Tu sais vers où ?
Hein ?
Tu sais, ils les expulsent vers où ?
J'ai pas entendu.
Tu sais vers où ils veulent les expulser ?
Vers le Mali, vers le Sénégal, il y en a pour le moment que l'Afrique.
Ouais, tout à l'heure on nous a dit Guinée, Mali aussi.
Ouais.
Et ok.
Ouais. Et franchement,
est-ce que c'est des vols qui sont annoncés sur le tableau ou c'est genre ils viennent en mode vol caché tôt le matin?
Non, en cachette. Il y en a un papier qui est collé, ça fait 2-3 semaines qui est collé avec des anciens noms. Et là, des rapatries directement à l'arrache. Il vient directement à 4h du matin. Il dit vas-y, ouais, toi, t'as le vol, vas-y, tu te scores, tu t'apprends direct.
Et ça, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Parce qu'en fait, ils font ça pour essayer de briser les résistances qu'il pourrait y avoir au moment de l'expulsion. Parce que
ça, c'est dégueulasse. Les gens, ils veulent préparer leur sortie, leur rapatriement, leur.
C'est ça.
Pas, mais bien à l'arrache comme ça, c'est pas bien, c'est pas humain.
Mais... Bah déjà, les expulsions, c'est pas humain, mais fait comme ça, c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas prévenir ta famille, tu peux. Enfin, non, mais c'est...
C'est ça. Il y en a même qui ont des enfants ici. Moi, j'ai une fille de 13 ans qui habite à Toulon. J'ai une fille ici, moi. Et moi, j'étais expulsé deux fois d'ici, à deux francs, j'étais expulsé. J'étais expulsé en 2010, j'étais expulsé en 2014, et je suis revenu.
Et à chaque fois, t'es passé par le centre de rétention?
Ouais, à chaque fois, je passe par le centre de rétention. Une fois, directement, ils m'ont pas passé par le centre de rétention. Ils m'ont passé directement de la prison, directement l'avion.
Ah ouais?
Ouais.
Ok. Et ça veut dire, toi, à chaque fois, t'as été à Vincennes?
Non, une fois j'étais à Vincennes, une fois j'étais à Munil, à Amelot, et une fois j'étais à Marseille.
Ok.
Parce que j'ai une fille là-bas.
Ah ouais, c'est chaud. Et du coup, ça veut dire c'est soit quand tu sors de prison, soit sur un contrôle d'identité dans la rue, quoi.
Ouais, c'est ça. Franchement, c'est dégueulasse. Moi, j'ai vu des cas partout en Allemagne. J'ai jamais vu un traitement d'humain comme cette fois-ci avec le Covid et tout. Mais franchement, il y en a beaucoup de choses, il faut en parler, qui sont en cachette par la police des frontières. Il faut dénoncer tout ça.
Est-ce que vous avez toujours accès à la fouille?
Oui, je suis toujours accès à la fouille, ouais.
Ok. Parce qu'à l'ancienne, là, il y a un an, on nous disait souvent que les équipes un peu violentes là, de Keuf, elles étaient à la fouille.
À la fouille pour les affaires, pour tes affaires.
Ouais, c'est ça, au coffre. Pardon, au coffre.
Ouais, c'est ça. Il y en a des gens qui ont même, ils les ont volés, leur truc. Voilà, à la fouille. Il y a plein de gens qui nous ont. Il y en a des vols tous les jours à la fouille. Tout le temps, il y en a des gens qui viennent, c'est qui vole. On n'a rien compris. Mais franchement, c'est dégueulasse.
Bah, c'est qui qui a la clé? C'était pour la question de c'est qui vole, en fait, on le sait très bien, c'est les seules personnes qui ont la clé, c'est les keufs.
Des trucs de valeur, comme ils voient un sac Louis Vuitton, ou ils voient un iPhone, ou ils voient un quelque chose de valeur, bien sûr.
Franchement, faut vraiment être un crevard, hein. Avec toutes les primes qu'ils ont gagnées, avec toutes les thunes qu'ils font, à les péter à quelqu'un qui est enfermé, faut vraiment être un crevard.
Franchement, c'est eux, tout le monde parle d'eux, c'est eux qui freinent. Il n'y a personne qui a accès à là-bas. Et si moi je veux aller accès à la fouille, il vient t'accompagner, tu ouvres ton coffre et tu fermes, tu peux pas toucher un autre coffre. Ça veut dire il y a que les keufs qui font ça.
Ouais, puis il y a un truc, en plus de vouloir gratter des thunes comme des crevards, il y a le truc de à Lyon, il y a deux ans je crois, on nous avait raconté qu'en fait les keufs ils faisaient ça, ils volaient de ouf à la fouille. Et ça leur permettait après de dire aux gens non, mais c'est un tel qui a volé, etc. Tu sais, histoire de diviser les gens à l'intérieur, parce qu'ils aiment beaucoup faire ça, tu vois.
C'est ça. Et puis c'est eux qui prennent et après ils allument le feu, comme quoi, ouais, c'est entre nous qu'il y a des vols.
Ouais, c'est vrai. C'est tous les mêmes quand même, hein. C'est vraiment incroyable. Quoi. Les mêmes techniques de merde.
Oui, mais franchement, cette France, mais on dirait. Quand on vit dans une jungle, et c'est tout. Il n'y a rien qui est correct, il n'y a rien qui est suivi, il n'y a rien, ni association, ni rien du tout. C'est tout à l'arrache. Il y en a un qui est avec moi, là. Normalement, il prend son médicament, ça fait 2 jours qu'ils ne l'ont pas amené, le médicament d'épilepsie. Il a le certificat du médecin, il a tout. Et il y en a beaucoup de gens qui sont là, ils doivent prendre leur dose, leurs médicaments, leur tout. Et ils sont jetés comme des chiens, ils souffrent ici. Comme tu les vois, tu n'arrives même pas à les regarder. Ils sont en manque et tout. Et oui. L'infirmerie, elle s'ouvre deux fois. Deux fois par jour, ils ne leur donnent pas, même pas leurs médicaments. Ils ne donnent que du Valium. Pour eux, ils ne sont pas suivis pour ça. Eux, ils ont des traitements à prendre dehors.
Et moi, je me demandais un truc. Tu parlais des associations. À Vincennes, si je ne dis pas de conneries, c'est l'ASFAM.
C'est là, il y a l'ASFAM, ouais, ça, y a que l'ASFAM.
Ça se passe comment avec eux?
L'ASFAM, ça se passe rien avec eux. Si tu veux faire appel, directement, ils te disent « Ouais, t'as pas, y a pas de chance, si tu vas faire appel. » Il y en a plein de gens qui ont fait appel, ils ne se sont pas sortis. Tu veux faire l'asile, ils te disent « Non, c'est pas la peine, il n'y a personne qui l'a accepté leur asile ici. » Ça veut dire qu'ils te coupent direct.
Ouais. Ouais, alors qu'ils sont censés être là pour vous aider à faire vos démarches, genre pas donner leur avis. Ils sont censés...
De accompagner des gens et tout, eux, ils te coupent direct. Ils disent, ouais, ils ont jamais accepté l'asile ici, ils ont jamais accepté. Et c'est ça, c'est la SPAM, franchement, c'est rien ici, hein, ils accompagnent rien du tout.
En fait, c'est vraiment, les gens, ils sont payés pour faire le tri pour la préfecture, tu vois.
C'est ça, c'est
Il n'y a pas écrit préfecture sur leur fiche de paye, mais quand même, c'est pas loin, tu vois.
Ouais, moi, j'ai demandé, comme je suis arrivé, j'ai demandé pour faire l'asile. Et normalement, tu as 5 jours pour faire l'asile, comme tu arrives. Et moi, j'ai fait l'asile, j'ai fait la demande. Et après, comme je suis parti pour demander c'est comment pour l'asile et tout, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit, ah ouais, on a oublié pour envoyer le message pour demander d'asile. Maintenant, c'est trop tard, tu peux pas faire asile. Parce que c'est...
Franchement, tu te rends compte comment ils jouent avec la vie des gens ? Non, mais c'est un délire,
c'est
quoi.
Ça, c'est ça, franchement, mais j'ai rien compris sur ça. Je dis, comme j'ai un droit, je veux faire un asile. Ils m'ont dit, non, c'est bon. C'est trop tard, c'est notre faute, désolé, maintenant c'est trop tard. J'étais dégoûté.
Puis ils sont pas payés au SMIC, hein. Je tiens juste à préciser, hein. c'est pas forcément les SMIC.
Ils sont bien payés.
Et enfin bref, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et comment la manière dont en fait ils sont aux côtés des keufs et aux côtés de la préfecture, parce qu'il y a un truc qui est vraiment dégueulasse, c'est que toutes tes démarches en fait quand t'es en centre de rétention, sauf si t'as des proches dehors, toutes tes démarches elles passent par cette association, quoi. Donc si cette association, elle dit tu fais pas appel, si elle veut, tu fais pas appel. Quand l'association, la SFAM, elle dit ouais, vas-y, porte plainte, mais nous on te le déconseille, eux après ils transmettent pas la plainte au procureur et basta. Hein.
Enfin, c'est ça.
Ils ont vraiment tous les pouvoirs, quoi. Tu vois.
Ouais, il y en a les pouvoirs, mais si, il faut savoir, les gens, il faut accompagner, mais nous on sait rien. C'est rien, on est enfermé comme des rats, franchement, on est mélangé, je vous l'ai dit.
Et du coup, en ce moment, il y a du monde à Vincennes ?
Oui, il y a du monde, il n'y en a que des toxicomanes, la plupart que des toxicomanes. On dirait tout le Stalingrad, ils l'ont amené ici.
Ouais, mais c'est chaud. Mais hein.
Ça veut dire qu'ils dirigent vraiment contre certaines personnes leur rafle, quoi. Et c'est ça qui est hyper inquiétant, quoi. C'est que, enfin, c'est des personnes c'est comme ça a toujours été le cas, quoi. Mais c'est des personnes qui ont besoin de soins. Et en fait, pour se débarrasser d'un problème, voilà. Mais c'est hallucinant.
C'est ça, comme ils arrivent pas à se débarrasser de là-bas, du parc, du Stalingrad, ils sont en train de se débarrasser.
Ouais, mais il faut soigner. Enfin, voilà. Le problème, faut soigner ces gens. Voilà. Leur sevrage à l'intérieur d'un centre de rétention, c'est
ils sont en train de faire ça dégueulassement, mais normalement ils doivent être accompagnés par leurs médecins dehors et tout. Et eux, ils font pas ça. Eux, ils sont en train d'enfermer les gens. Franchement, il y a des gens qui sont suivis par les associations, qui ont leur chambre, ils ont tout.
Et du coup,
ils ont leur certificat médical, ils ont tout.
Moi, je me demandais un autre truc, c'est... Donc toi, là, ça fait 15 jours. Quand tu es placé en centre de rétention, dans les 48 heures ou 72 heures, tu vois un juge des libertés et détention. Ça s'est passé un peu comment pour toi ? Tu crois que tu peux raconter un peu ce que c'est, tu vois, pour les gens qui connaissent pas ?
Moi, je suis passé la première fois, ils m'ont dit, ouais, parce que moi, je suis sorti une fois, j'étais au CRA, à Hondaya, quand je venais rentrer de l'Espagne. Ils m'ont attrapé, moi, 2 jours, ils m'ont amené chez le procureur, il y avait un vice de procédure, je suis sorti. Et normalement, dès qu'il y a un vice de procédure, normalement, il n'y a pas un jugement. Et moi, qu'est-ce qu'elle a fait la préfecture? Elle m'a donné un quai territoire, un quai territoire de 3 ans. Et là, comme je suis sorti de prison, il y avait des polices de frontières qui m'attendaient, ils m'ont dit, ouais, vous avez un quai territoire. Et je dis, moi, j'étais jugé, je suis sorti en vice de procédure. Normalement, dès qu'on sort en vice de procédure, normalement, il n'y a aucun jugement qui passe derrière.
Ouais, mais la préfecture, c'est des décisions administratives. Du coup, eux, ils n'ont même pas besoin de jugement, quoi. Non, mais c'est dégueulasse, hein, mais...
C'est ça, et la préfecture...
C'est vraiment des rageux, quoi.
Franchement, la préfecture, c'est... Ils veulent rien savoir. T'as des enfants, t'as pas des enfants. Ils veulent rien savoir. Ils veulent que je fais des gens... Et là, moi, quand j'ai l'habitude depuis 2005, moi, je connais comment ça marche ici, les expulsions et tout. Et là, ils sont en train d'envoyer tout le monde, de rassembler tout le monde, mélanger tout le monde, des toxicos, le Covid, avec tout le monde. Franchement, c'est tous les matins tu entends des cris, il y en a des gens qui le scotchent, il y en a des gens qui...
Ouais, parce que toi, depuis 2005, en fait, t'as eu le temps de voir, parce que bah, l'écras, ça n'a jamais été bien, hein, mais t'as eu le temps de voir aussi un peu l'allongement de la durée de rétention, comment c'est de plus en plus vénère.
J'ai pas entendu.
Je dis, toi, vu que depuis 2005, tu connais ça, je dis, t'as eu le temps de voir depuis l'intérieur, un peu, tu vois, ce truc-là de l'allongement de la durée de rétention, de comment c'est de plus en plus vénère, sachant que déjà, au départ, c'était dégueulasse.
Ouais, c'est ça. Avant, c'était 48 jours, maintenant, c'est 3 mois. Eh oui, maintenant, avant, c'était pas comme ça. Avant, il y avait que des jeunes propres et tout. Il n'y avait pas les gens qui sont malades. Les gens qui sont malades, ils sont suivis dans les hôpitaux, on mange dans une petite salle. Il y en a au moins 150 personnes. Il n'y a même pas de gel d'hygiène. Il n'y a rien.
Bah, moi, ça me fait penser qu'en fait, ça fait plusieurs années. Tu sais, avec leurs différentes réformes à la con, la dernière c'était la loi asile immigration, mais il y a peut-être eu d'autres trucs dans d'autres lois à d'autres moments. Ils sont en train de rétrécir en fait tout ce qui est applicable pour le titre de séjour santé. Et de moins en moins de maladies sont reconnues. Tu vois, même les sida, c'est de plus en plus remis en question et tout. Et du coup, en fait, il y a de plus en plus de gens qui devraient être soignés en France qui maintenant sont plus, tu vois, ont plus la possibilité de péter un titre de séjour. Et donc, ils se retrouvent possiblement en centre de rétention. Là où il y a 15 ans, ça aurait pas été possible, tu vois.
Ouais, avant c'était possible, mais maintenant c'est plus possible comme avant. Avant c'était possible. Avant, si t'avais une maladie ou si t'étais accro à la drogue et tout, il y avait des suivis, il y avait pas ce genre de situation. Et là, c'est mélangé. Là, c'est à l'arrache. Franchement, c'est le Covid, les gens qui sont malades. Et vous voyez des gens, ils ont tous les pieds gonflés et le sang qui saigne. Et franchement, c'est dégueulasse. Et il y en a des gens qui ont des pâtes, il y en a des gens et dans une petite cuisine, on mange. Mais comment voulez que je vous explique? Mais franchement.
C'est des personnes qui sont malades, en fait. C'est les effets, enfin, là, ce que tu décris, en fait, c'est vraiment les effets du crack, en fait. Voilà, des lésions sur la peau, principalement et tout. Et donc, c'est très, très inquiétant, de faire de sevrage à des gens de cette manière-là, parce que c'est fait, il y a besoin d'un suivi et d'un traitement médical. Et je veux dire, ce que tu racontes, c'est vraiment fou, quoi. Enfin,
je vous raconte, tous les gens du Stalingrad, ils sont ici. Tous les gens de Stalingrad, ils sont ici. Tous les malades, tous les toxicos qui sont malades, ils sont ici au CRA.
Bah, au lieu d'être soigné dans des centres spécialisés.
Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. En fait, nous on va bientôt terminer l'émission. Et je voulais savoir, est-ce que toi, il y a un dernier truc que tu voudrais dire qui te semblerait important?
Ouais, je vous entends mal. Hein.
Okay.
Est-ce que tu veux rajouter un truc là, parce qu'on va devoir finir l'émission?
Ouais, ben moi je veux bien que les associations ils prennent ça au sérieux. Et ouais, il y a une solution pour nous, parce qu'on est enfermé, il n'y a pas de vol, il n'y a rien. Pourquoi on est enfermé? On est enfermé, on risque plus de Covid que dehors. Ben, j'aimerais bien qu'ils trouvent une solution pour tout le monde. Pour qu'ils viennent, qu'ils voient, qu'ils regardent, qu'ils... Eh oui, parce que c'est... Tout est commenté, les juges, les policiers, les médecins, tout est commenté. Il faut voir ça au sérieux avec les associations.
On est d'accord. Et face au Covid, de manière générale, pour la santé de tout le monde, en fait, il faut fermer les prisons.
Au Covid, il y en a tous les jours qui tombent 2 malades, 3 malades. Tous les jours, il y en a 2 malades, 3 malades qui tombent. Tous les jours. Et ils sont à, je vous donne l'adresse, ils sont à Massy-Palaiseau, il y a un centre de rétention là-bas. Tous ceux qui sont malades, ils les enferment là-bas.
Ça, c'est un plaisir, non?
Hein?
C'est plutôt, pardon, c'est plutôt un plaisir, non?
De quoi?
Qu'ils envoient les personnes qui ont le Covid?
Ouais, c'est un plaisir, je crois pas que ce soit à Palaiseau, c'est un plaisir.
Non, non, ils sont à Massy-Palaiseau parce qu'ils sont venus deux aujourd'hui, ils viennent de là-bas, ils étaient là, ça fait 15 jours, ils avaient le Covid, et ils sont venus aujourd'hui, ils nous ont dit qu'ils étaient au Massy-Palaiseau.
Ok. Okay.
Et il y en a même les anciens, ils sont là-bas.
Ok.
Eh ben, merci à toi en tout cas.
Ouais, plein de force à vous.
Merci, merci, même vous, c'est gentil de nous écouter. Franchement, je veux bien que la société soit, elle doit être humaine un peu pour penser aux gens. Même nous, on est des humains, et pour penser à nous. Hein.
Bah ça, c'est sûr. Et puis, on essaiera de relayer ça au maximum. Plein de force à toi, et puis tiens-nous au courant, n'hésite pas. Quoi.
Bah, merci beaucoup, et on se tient au courant. C'est
plein de force.
Merci, au revoir.
Ciao.
Ciao.
Bah peut-être pour continuer l'émission, on va reprendre sur le blocage des matons. Voilà, donc juste pour vous rappeler un peu le contexte, en fait, il y a 2-3 ans, à Condé-sur-Sarthe, il y avait eu un blocage très fort, puis après, le blocage s'était un peu étendu dans d'autres tôles, et voilà. Donc, on rappelle pour ceux qui sont intéressés qu'il y a toujours la retranscription et les vidéos des prisonniers qui, à l'intérieur, ont pris la parole à Condé-sur-Sarthe pour dénoncer ce qui se passait à l'intérieur quand c'était bloqué.
Voilà. Ouais, moi, je voulais juste dire un truc avant que tu continues. Quand on dit blocage, c'est contrairement aux prisonniers, quand on parle de blocage, ouais. En fait, où ils bloquent leur cours de promenade ou une cellule. Quand on dit blocage, c'est non seulement des matons qui foutent le feu à des pneus dehors, mais ça, à la limite, c'est pas le pire, quoi. C'est en fait, c'est des matons qui bloquent les familles qui veulent aller en parloir, qui, dans tous les cas, les parloirs sont fermés parce qu'il n'y a pas de matons pour les assurer, qui, les activités sont suspendues à cause de ces matons-là, qui demandent l'intervention des ERIS et des ELAC parce qu'après, ils ont peur. Parce que vu qu'ils ont foutu le seum à tout le monde, ils ont peur de revenir dans la prison. Et en fait, qui genre bloquent tout le monde à l'intérieur. Et dans le cas de Condé-sur-Sarthe, c'était encore pire. Parce que vu que c'est une des taux les plus sécuritaires de France, il n'y a pas beaucoup de téléphones, il n'y a pas beaucoup de moyens de communication. Les lettres, elles mettaient grave du temps à partir. Et il y a eu plusieurs jours sans accès au téléphone, avec un blocage quasi complet de la tôle, quoi. Juste après une intervention du RAID. Dans l'UVF, quoi, avec la mort de quelqu'un. Et donc, en fait, c'est un contexte de dingue, quoi, enfin, à cette époque-là, quoi. Donc, eux, quand on dit blocage, eux, en fait, ils s'en prennent directement à des vies, quoi. Enfin, c'est chaud. Fin...
Non, mais de ouf. Et donc, pour rappel, c'est en train de... Enfin, c'est porté par Benoît David auprès de la CEDH, voilà, pour essayer de faire condamner l'État. Même si, bon, voilà, ça arrive de toute façon trop tard, et voilà. Et donc, à l'époque, en tout cas, le ministère de la Justice avait annoncé vouloir punir les matons qui avaient fait ça. Qui avait fait tous ces blocages et tout. Sauf que, vu qu'ils n'ont pas l'habitude de les punir et tout ça, mais surtout parce que le droit de grève, en fait, il a été supprimé en 66, si mes souvenirs sont bons. Voilà, parce que, en fait, à l'époque, ils ont négocié, en 58, pardon, et ils ont négocié, en fait, une augmentation de salaire contre la perte de leur droit de grève. Et donc, en fait, ils ont voulu. Mettre des petites sanctions, quoi. Et en fait, ils ont perdu. C'est le Conseil constitutionnel qui leur a dit, bah non, en fait, vous avez pas de procédure légale, en fait. Enfin, voilà, possibilité de faire appel et tout. Enfin, tu vois, les procédures disciplinaires classiques, quoi.
Classiques, donc, contre les gens qui se bougent. Et en fait, juste pour dire, ça veut dire que depuis 58, en fait, il n'y a quasiment pas de sanctions importantes, parce que sinon, il y aurait eu recours.
Clairement.
Pour tous les mouvements de matons. Moi, clairement. Ça fait 5 ans qu'on en parle à la radio et que je suis halle, mais en fait, il y en a énormément. Mm-hmm. Et donc, ça fait depuis 58 qu'ils sont tranquilles. Et en fait, c'est un truc de ouf.
Et parce là, que... tu vas voir qu'ils sont encore plus tranquilles grâce à ça.
Ouais, non, mais quand ouais. Tu sais, ils ont échangé leur droit de grève contre une augmentation de salaire, on pourrait dire allez, bolos. Mais en fait, c'est-à-dire que sans droit de grève, ils ont gratté un nombre de trucs, mais qui est hyper vénère, quoi. Enfin, parce que c'est vraiment des gens qui sont utiles au pouvoir.
Bah, c'est comme les keufs dont on parlait tout à l'heure et tout, quoi. Et voilà. Et donc ils ont pondu une circulaire qui explique en fait comment ça doit se passer quand il y a un blocage d'établissement. Et donc ces cités constituées par le refus de prise de service ou d'exécution de certaines tâches, par exemple le lancement des promenades, l'organisation des parloirs et des activités. Voilà. Et le blocage des portes ou des extractions. Et ils parlent aussi, c'est plus là précisément, mais des pneus qui crament. Voilà. Donc juste pour rappel, cette note, elle a été pour vous dire l'importance qui est donnée par les matons eux-mêmes à cette note et qu'ils en ont la frousse. C'est que cette note, elle a été pondue le 5 juillet dernier et que le 13 juillet dernier, les matons de Valenciennes bloquaient leur tôle en faisant un feu de pneus juste devant et en bloquant les extractions. Et donc, c'est comme d'hab, hein, le syndicat FO qui était très fier de faire ça et donc de bloquer. Et donc, en fait, ils mettent en place tous les outils juridiques qu'ils doivent utiliser pour donner une sanction disciplinaire à quelqu'un. Mais donc, en fait, ces outils juridiques, ils en deviennent inapplicables parce qu'en fait, ils leur demandent plein de choses hyper précises. Donc, désigner nommément la personne et il faut apporter la preuve que tu as demandé aux gens de reprendre leur service. Donc, en fait, il faut que t'aies apporté une lettre, ou enfin, voilà. Mais en fait, dans la pratique, ça sera jamais fait, parce que
qu'il y a un huissier qui soit présent c'est tous ça. Les jours de blocage, quoi. Non, mais la blague.
Ouais. Et donc ça fait partie. Voilà, c'est ce que doit faire normalement le chef d'établissement lorsque il y a un blocage. Et donc dans la pratique, en fait, ça va pas être possible. Donc après derrière, ils doivent faire des rapports et tout ça. Ils doivent tout mentionner, soi-disant ce qui a été fait par les gens et tout. Mais dès le début, en fait, c'est vraiment le second point de la circulaire. Ils disent, il faut prouver. Voilà, doit être enjoint aux personnes concernées, nommément désignées, de mettre fin sans délai à la cessation concertée de service. Donc ça veut dire qu'il faut que tu ailles globalement apporter une lettre, quoi. Enfin, voilà. Et qu'il y a besoin d'avoir la preuve d'avoir apporté cette lettre, et ça sera jamais fait. Donc voilà.
En fait, ça sert qu'en cas de mouvement de maton long, quoi. Enfin, tu sais que s'il y avait une vraie prise, un vrai problème avec les matons, quoi. Mais ce qui est au quotidien n'a aucun sens, quoi. Enfin, tu vois.
Ouais. Et encore, en fait, c'est pas nécessaire parce que, en fait, on sait très bien que comment fonctionnent les matons, c'est qu'en fait, ils vont souvent bloquer les tôles sur leur jour de repos. Voilà, et donc en fait c'est pas toujours les mêmes matons qui bloquent au même moment, et aussi ils utilisent énormément les certifs médicaux, enfin ouais, le truc normal, que tout le monde fait. Et donc voilà, donc globalement, en fait, ils sont en train de faire un truc.
Sauf qu'eux, ils se sentent futés parce qu'ils font ça, quoi.
C'est ça.
C'est ça la différence. Ouais.
Donc, globalement, en fait, les sanctions disciplinaires sont inapplicables. Voilà. Et en plus, il y a une explication sur le rappel de la règle du 30e. Donc, globalement, en fait, c'est aussi un rétablissement du droit de grève pour les matons, parce qu'ils disent, si, en fait, le 30e, donc la retenue sur salaire d'un 30e du salaire par jour, il peut être appliqué sans, par contre, qu'il y ait besoin de preuves. Et nous, ce qui nous semblait important aussi de comparer, avec tout ce fichier, toutes ces infos qu'ils vont récolter dans les lettres et après derrière leur rapport circonstancié, c'est qu'en fait on est très très proche du CRI, quoi, du compte rendu d'incident qui est en détention. Là, eux, à l'intérieur, en fait, ils doivent toujours avertir qu'est-ce qui a été fait et que les prisonniers et que les matons soient avertis de tout ce qui se passe, alors que par contre pour les CRI, pas du tout. Et après derrière peut y avoir des procédures disciplinaires qui va y avoir à l'encontre des prisonniers à l'intérieur de la détention. Et donc là on voit clairement le truc de y mettre en place d'un côté un outil légal inutilisable exprès, et de l'autre côté l'outil qui est à peu près similaire, quoi, faire globalement des rapports sur ce qui se passe, qui là se passe dans l'opacité la plus totale pour les prisonniers. Et c'est le moment où en fait ils se retrouvent appelés au prétoire, qu'on leur dit c'était votre 7e, 8e CRI, et donc vous allez faire des jours de des jours de mitard. Donc voilà, ça nous semblait important de rappeler un peu ça, parce qu'en fait, c'est aussi ça qui conditionne tout ce qui va se passer derrière. Parce que les matons, on se rappelle bien comme ils ont pleuré quand ils ont eu peur d'être à peine sanctionnés. Voilà, ils l'ont jamais été. Et donc là, en fait, ouvertement, ils leur disent c'est bon, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et preuve en est, la semaine dernière à Valenciennes, à Perpignan, pardon, ça a bloqué encore. Voilà, et donc c'est clairement une circulaire qui dit qu'applique ce qu'avait demandé le Conseil constitutionnel, de dire il faut faire quelque chose, mais qui dans la pratique ne sera jamais appliqué et jamais applicable. Et ils l'ont construit comme ça.
Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas envie de sanctionner ni les matons, ni les keufs dans la rue quand ils manifestent armés, etc. Maintenant, au contraire, 5 ans après les manifs de keufs cagoulés qui marchent vers l'Elysée, on leur dit non, viens avec ton Glock, ça te servira de billet de train et tu seras le super-héros du train. Quoi. Enfin, on est vraiment dans des ambiances délirantes, ou en tout cas, tous ces corps-là, on leur dit mais faites n'importe quoi, il n'y aura jamais de sanctions à la limite de la promotion. Quoi. Et c'était là, en fait, juste pour dire, c'était aussi la même chose dans la justice, quoi. C'est-à-dire la parole de Maton, elle a servi plein de fois à condamner des gens sans qu'il y ait besoin de montrer 1500 preuves et 1500 procédures, quoi. Et donc c'est déjà les mêmes logiques qui sont applicables, quoi. Et juste le dernier truc que je voulais dire, après je te redis, mais en fait quand eux ils bloquent, c'est un truc de ouf, parce que qui fasse des mouvements contre le ministre de la justice, moi j'en ai rien à foutre, hein. Mais par contre qui bloque la vie des gens, ça c'est un truc de ouf. Les soignants dans les hôpitaux ou n'importe qui, quand t'es avec des humains, tu les prends pas en otage ou je sais pas quoi, de manière hyper chelou. En fait, c'est hyper grave de faire ça, quoi. Cette technique de lutte, Elle est vraiment genre hyper dangereuse. D'autant plus qu'en fait, c'est des moments où ils poussent les prisonniers à se révolter en disant là serait le bon moment, ça nous aiderait dans le rapport de force, tu vois. Comme si t'avais envie d'aider les matons à récupérer un taser pour après qu'ils reviennent te taser à la fin de la lutte, quoi. Enfin.
Et ils le disent très clairement. Et juste pour continuer un peu sur ce qu'ont gagné les syndicats de matons à l'intérieur, c'est encore FO qui se félicitait. Donc va y avoir le développement des caméras piétons donc dans les étages et tout. Donc ça c'est pour tous les personnels, et surtout ils vont commencer à utiliser des tasers. Voilà, et donc il commence ça commence toujours, hein, on sait comment ça se passe, hein, par une expérimentation, et d'ailleurs le syndicat le dit très bien, on sait que c'est l'expérimentation, mais qui va pouvoir être étendue dans quelques semaines voire mois. Voilà, et donc va déjà y avoir donc 4 équipes de LSP. Donc les LSP, c'est le nouveau nom des ELAC dont on a parlé pendant toute cette émission. Des gens pour les extractions et tout, et aussi des grenades lacrymogènes, enfin pas des grenades de la lacrymo, pardon, qui vont être mis pas à tous les personnels, mais à certaines personnes.
Ce qui était déjà le cas, en fait. Hein. C'est-à-dire, il y a l'infâme qui nous racontait dans une lettre en novembre comment il s'était fait gazer par un gradé à Vendin. Et on voit très bien comment ils utilisent la gazeuse à l'intérieur. Hein. C'est-à-dire que normalement, ils sont censés respecter un truc de distance là, de sécurité pour éviter de te brûler les yeux. Déjà, dehors, ils ne le font pas. Mais à l'intérieur, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Quoi, parce qu'ils essaient vraiment de... Enfin, l'infâme, c'était de la torture à base de lacrymo, hein, dans les oreilles, dans les yeux. Enfin, genre...
Et là, ce qu'ils veulent aussi développer, c'est les brigades cynotechniques, comme ils appellent ça. Donc, des chiens qui vont commencer à faire des fouilles. Et donc là, ils sont en train de former des chiens et tout. Et donc, si mes souvenirs sont bons, c'est à Rennes. Ouais, c'est ça, c'est à Rennes que va y avoir les premières formations pour ça. Donc voilà. Donc, comme d'hab, en fait, là, vous voyez, ils gagnent les trucs sans avoir même besoin de faire des blocages. Voilà, donc on voit bien comment ça fonctionne très bien. On va peut-être passer au coucou.
Ouais, on va passer au coucou. Déjà, un gros big up à Florian. Je sais pas si t'as pu écouter cette émission, mais on pense fort à toi. Là, le temps que cette émission elle s'envoyait, en tout cas, je t'ai envoyé une lettre quand on a enregistré l'émission. Plein de pensées aussi aux copains de Liancourt, à l'infâme qui a toujours pas sa gestion sans menottes, et il serait temps en fait de lui enlever les menottes pour toutes les sorties de cellules, à Fabrice, et aux copains, là, enfin aux différents prisonniers qui ont appelé la descente de rétention, beaucoup de force à vous face au keuf, Maton, quoi.
Ouais, ouais, non, c'était pour dire avant les coucous, mais pour vu que c'était une émission un peu dure, pour finir juste sur une note un peu cool, dire voilà, il y a avant-hier en Israël, dans une prison là de haute sécurité où ils enferment donc des Palestiniens, des Palestiniennes qui luttent contre l'occupation israélienne. Donc il y a 6 personnes qui ont réussi à se faire la malle en creusant un tunnel à l'ancienne. Donc ils ont creusé un tunnel, le premier tunnel en fait derrière le robinet là de leur coin toilette dans la cellule, et après ils ont creusé 20 mètres sous la tôle et ils sont sortis voilà, avec un truc qu'ils avaient caché sous l'herbe.
Tellement beau.
Et ça fait plaisir.
Voilà, donc c'était a priori, ils avaient tous des peines genre de perpète ou des trucs comme ça à l'intérieur de cette tôle, et donc voilà, ça fait plaisir quand même.
C'est incroyable quoi, c'est pas que la déterre quoi, mais la capacité à faire un tunnel comme ça envoie du rêve quoi, c'est incroyable. Plein de forçats, on espère qu'ils se feront pas attraper.
Grave.
Et c'est un sacré message à envoyer à cet état de colon.
Et en tout cas, bah ouais, plein de force à tous les prisonniers, leurs proches, les prisonnières. Voilà. Pour rappel, tout ce week-end, il y a à Lyon, Najet organise plein de choses. On vous a dit le programme dans le début de l'émission. Voilà.
La rediffusion, c'est le mercredi matin à 8h30. Notez-le bien, parce qu'on ne dit pas à toutes les émissions. C'est mercredi matin, 8h30. Et bah là, plein de force à tout le monde. On espère que la semaine prochaine, on sera avec l'équipe au complet. Et bah voilà, comme on dit souvent.
Force, courage et détermination, il n'y a pas d'arrangement. À la semaine prochaine.